Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association internationale de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'en aider d'autres à se rétablir de l'alcoolisme. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, ils s'autofinancent. Les AA ne sont associés à aucune secte, formation religieuse ou politique, ils sont multiraciaux. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Basé sur les principes AA et de nature spirituelle, ce mode de vie, lorsque mis en pratique, chasse l'obsession de boire et permet de vivre heureux, joyeux et libre. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Aujourd'hui, nous recevons Linda. Linda est une membre des Alcooliques Anonymes. Elle a tout de suite accepté de venir partager son histoire à la radio aujourd'hui. Elle semble très bien préparée là, pour nous raconter son histoire, puis j'ai bien, bien hâte de l'entendre. Alors, tout de suite, on lui passe la parole. À toi, Linda.
Bonjour, Linda, alcoolique. Oui, ça me fait plaisir de partager, surtout dans les moments qu'on vit présentement. Ça fait du bien d'avoir plusieurs options pour entendre un membre partager. Donc, je vais commencer par m'identifier. J'ai 51 ans, je suis la maman de 3 grands-enfants et j'ai 2 petits-enfants de 5 ans et 2 ans et demi qui font ma joie, mon bonheur et qui me donnent mal dans le dos. Je viens d'une famille de 3 filles. On a, pendant 3 mois dans l'année, on a le même âge, les 3. J'ai une sœur jumelle identique puis une sœur un peu plus jeune. On est adoptés toutes les 3. On était adoptés à la naissance. En fait, on est sortis de l'hôpital. On s'est en allé directement chez mes parents. J'ai eu une enfance de rêve. J'ai été aimée, gâtée. Je me suis jamais posé de questions si mes parents m'aimaient. C'était évident. La seule chose que je peux reprocher à mes parents, c'est de nous avoir trop gâtés. Le non et les pénitences, j'ai pas vraiment connu ça dans ma vie. Mais en général, j'ai eu une enfance hyper heureuse. On était leur priorité, puis ça paraissait. On passait avant eux. Donc, c'est ça, je peux pas dire, mon Dieu, j'ai bu parce que j'ai été battue, maganée, violentée, absolument pas. On était vraiment très, très choyés à la maison. Donc, mais ce que je peux vous dire, c'est que la première émotion que j'ai ressentie dans ma vie, négative, là, je parle, parce que l'amour, ça, c'est sûr que dès notre arrivée à la maison, on a ressenti ça, c'est certain, j'ai aucun doute là-dessus, c'est la peur. J'avais peur de tout. Et principalement qu'il arrive quelque chose à mes parents. J'étais pas capable de m'endormir le soir si je pensais que mes parents étaient pour disparaître ou partir ou qu'il leur arriverait un malheur. Et ça, c'est la peur la plus tenace que j'ai vécue, mais j'avais peur d'à peu près tout. J'avais peur de faire rire de moi, j'avais peur que mes sœurs soient pas gentilles avec mes parents, parce que moi, c'était évident que j'étais gentille, là, selon moi. Mais... Ça, c'est la peur. Puis la peur, ça reste longtemps. Hein? Puis il y a plusieurs façons de la vivre. Puis moi, ben ça me créait de l'anxiété. Fait que j'étais pas capable de dormir le soir. Donc, c'est une émotion qui est vraiment pas agréable. Puis pour contrôler ça, je me suis mis à être contrôlante. Donc, envers moi-même et envers mes sœurs et envers mes amis et envers plus tard mes conjoints. Donc... En essayant de me contrôler, je contrôlais les autres. Là. J'ai appris avec le temps que ça ne fonctionne absolument pas. Là. J'étais une petite fille modèle. J'étais vraiment bonne à l'école. J'adorais ça l'aide. Puis moi, je me faisais un devoir d'être première de classe. Parce que dans mon cœur, mes parents étaient pour être fiers de moi. Mon père, je pense qu'une troisième année forte, je pense qu'il appelait dans le temps. Puis ma mère, elle a arrêté l'école à 13 ans. Eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on soit heureuse. Puis moi, ben, je me mettais de la pression. Il n'y a jamais personne qui m'a mis de la pression. Je m'en mettais moi-même. Mais ça donnait bien. J'aimais l'école. Donc, j'ai pas souffert de ça. J'ai pas bu, moi, à l'adolescence. J'ai pas pris de drogue. J'ai pas. Je me suis pas lancée dans la consommation jeune. J'étais trop dans la performance. Puis j'ai peut-être bu une fois là, quand j'avais comme 13-14 ans. Puis j'ai vraiment pas aimé l'effet. Je perdais le contrôle. Ça allait pas avec ma personnalité. Fait que j'ai laissé tomber le projet de boire. Je me suis par contre lancée dans les études vraiment à fond. Mais. Je me suis mariée à 20 ans, puis j'ai fait mes trois bébés pendant que j'étais à l'université. Entre 20 et 25 ans, j'ai eu trois enfants. En fait, entre 21 ans et 25 ans, j'ai eu trois enfants, trois beaux garçons. Puis je pense que c'est la première fois de ma vie que j'avais aucune anxiété. J'étais vraiment à l'aise dans le rôle de maman. Puis j'étais bonne. J'étais bonne, fait que je m'excuse, je viens de toucher à quelque chose. J'étais vraiment heureuse. C'est un peu prenant, là, trois jeunes enfants, à peu près, ils ont 23 mois de différence puis 15 mois de différence. Ça fait lourd pour mes petits bras, mais j'adorais ça. Puis je buvais pas, fait que c'était plus facile, là. Mes heures étaient occupées à m'occuper des enfants puis à étudier. J'ai adoré mon rôle, mais ça m'a pas empêché de boire plus tard. Puis pour moi, c'était le rôle le plus important de ma vie, c'était d'être mère. Vers l'âge de 28 ans, moi puis mon mari de l'époque, on a fait un voyage dans le sud. Puis j'ai commencé à boire tous les soirs. J'en vomissais, là, tous les soirs. Et le lendemain, je recommençais. Déjà en partant, il y avait comme un indice qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas, là. Tu sais, si t'es malade, ben tu recommences pas le lendemain, là. Mais je l'ai fait. Puis c'est... Ce que ça m'a donné comme résultat, c'est que ça baissait mon anxiété, mais solide, là. Je pense que je dansais sur les tables là, le soir, puis je dansais avec les étrangers, et j'avais vraiment du fun. Parce qu'au début, c'est le fun, boire. Ça baisse mon anxiété. J'étais encore à l'époque où j'avais le vin joyeux. Malade aussi, là, mais principalement joyeux. Puis quand je suis revenue de vacances, ça a duré une semaine, là, j'ai commencé à boire les fins de semaine, quand il y avait des parties avec les amis, puis pour retrouver la sensation de l'anxiété qui descend, mais à zéro, là. Aucune anxiété. Moi, j'ai dû lire depuis que j'ai 9 ans. Pour m'endormir, je dois lire. Sinon, je suis pas capable de m'endormir parce que le petit hamster, il part, puis il arrête pas. Ça l'aide pas au sommeil, ça. Mais j'ai découvert qu'en buvant, je m'endormais. Ben en fait, je m'endormais. Je faisais des blackouts, là. Ça dort. On dort pas bien, mais on s'endort bien. Donc, ça répondait à plein de besoins que j'avais. C'était merveilleux. Puis en plus, dans les parties, écoute, là, je dansais, là. J'étais dans ma tête, là, tout le monde me regardait parce que je dansais super bien. Probablement, c'est parce que j'avais l'air vraiment folle, là, Mais moi, dans mon cœur, c'était « wow, hey, je suis hot ». Mais non, la réalité, j'ai vu des vidéos plus tard, puis c'était pas hot, mais pas pantoute. Tu sais, quand tu danses, puis t'as un petit peu de bave qui coule, là, c'est pas très joli, là, mais moi, dans l'action, c'était super hot. Donc, c'est ça, ça a été vraiment le fun pendant une période de temps. J'ai bu... de 28 à 35 ans, c'était vraiment le party, mais c'était pas ça m'empêchait pas d'être fonctionnelle. Donc, on peut dire que à cette époque-là, j'étais une alcoolique fonctionnelle. J'occupais un poste quand même assez demandant. Quand mes garçons ont... Mon plus jeune a eu 6 ans, j'ai commencé à travailler à l'extérieur. Je travaillais en informatique. Là, j'ai une formation de comptable. Mais je travaillais en informatique, j'avais beaucoup à voyager. Puis quand on est à l'extérieur, pas d'enfants, la seule responsabilité qu'on a, c'est de se lever le matin. Ce que je réussissais pas toujours, mais quand je réussissais à me lever, j'étais fonctionnelle. J'avais souvent l'excuse de la gastro, là, mais c'était, je me levais pas le matin. Là, j'étais encore... ou je me levais, mais j'étais trop poquée là, pour aller travailler. Fait que j'inventais une raison, puis je disais que je travaillerais à partir de l'hôtel. Mais ça boit bien quand on est seul. La première chose que je spottais là, quand j'arrivais dans une ville, c'était soit la SAQ, la LBCO ou ben les liquor stores dans les villes où j'allais. avant même de savoir était où mon hôtel, c'était vraiment ça que je regardais. C'est grave, là, quand tu penses à ça, là. Je visitais pas beaucoup, moi, quand j'étais en voyage. J'allais au travail, je revenais à l'hôtel, je mangeais. Ben, quand je dis je mangeais, c'était... J'allais quelque part où il y avait de l'alcool, puis je rentrais à l'hôtel, puis je finissais les bouteilles, parce que c'était rarement une bouteille. Puis quelque part dans le processus, on a décidé qu'on n'était plus en amour. Moi puis mon premier mari, le père de mes trois garçons. Puis on s'est séparés. Puis là, la descente aux enfers a commencé. Parce que là, on avait trouvé une formule magique. Hey, les garçons n'avaient pas... On avait une garde partagée une semaine. Et les garçons n'avaient pas à déménager. C'était nous qui déménageions. Fait qu'on a gardé la maison familiale. Puis on s'est pris un appartement à deux. Hey, c'est fou le faire, pareil. Puis on était... C'est nous qui changions de domicile une fois par semaine. Les enfants n'avaient pas à changer d'école. Le cercle d'amis des enfants était conservé. C'est nous qui déménagions. Mais je peux vous dire que la semaine que j'étais seule à l'appartement, écoute, j'en ai pratiquement aucun souvenir, là. J'allais travailler, je revenais, je buvais. Je retournais travailler, je revenais, je buvais. Je m'ennuyais terriblement des garçons. Mais ça a duré un temps. Donc, ça a été vraiment la descente aux enfers.
Bon, bonjour, chers auditeurs. Linda, elle nous a partagé son premier segment de partage, là. Elle nous a initié à son contact avec l'alcool qui est arrivé tard dans sa vie. Pas parce qu'elle a eu une enfance terrible, pas parce qu'elle a vécu plein de blessures. L'alcool, c'est sournois. C'est incontrôlable. Et puis là, on est directement dans cette histoire-là, présentement. On va à la pause et tout de suite au retour, on va retrouver notre invité.
Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions quotidiennes. Les réflexions quotidiennes, c'est des réflexions de membres des AA à l'intention de tous les membres. Aujourd'hui, je vous lis la page Une nouvelle dimension. Le titre de la page, c'est Une nouvelle dimension, page 124, et elle date du 25 avril. Au dernier stade de notre alcoolisme, la volonté de résister a fui. Par contre, lorsque nous admettons notre défaite totale et lorsque nous devenons entièrement disposés à faire l'essai des principes des AA, l'obsession nous quitte et nous entrons dans une nouvelle dimension. La liberté entre les mains de Dieu telle que nous le concevons. Réflexion de Bill, page 283. J'ai le bonheur de faire partie de ceux qui ont connu cette impressionnante transformation dans leur vie. Quand j'ai passé la porte des AA, seule et désespérée, j'étais découragée au point de croire n'importe quoi. L'une des choses qu'on m'a dites était « ça pourrait être ton dernier lendemain de veille, sinon tu peux continuer de tourner en rond ». De toute évidence, l'homme qui m'a dit ça se portait beaucoup mieux que moi. J'ai aimé cette idée d'admettre ma défaite et depuis, je suis libre. Mon cœur a entendu ce que ma raison n'avait jamais voulu entendre. Être impuissant devant l'alcool n'est pas la fin du monde. Je suis libre et reconnaissant. Maintenant, nous retournons au partage de Linda. Linda, elle nous expliquait là, justement là, sa séparation de son premier conjoint, là, puis la garde partagée et puis la difficulté justement au niveau de vivre cette situation et la consommation d'alcool. Alors, à toi, Linda.
Bon, oui, effectivement, c'est là que j'ai connu le début de ma déchéance. Ça a duré un an, notre séparation là, avec l'appartement et la maison. Suite à ça, il y a eu un événement marquant dans ma vie. C'était les retrouvailles du secondaire 5. Je pense que c'était les 20 ans de les retrouvailles. Je suis arrivée là, moi, j'ai revu un ami là, avec qui j'ai fait tout mon secondaire, cégep et université. Il est même venu à mon premier mariage. Puis il était, je pense, séparé depuis 10 ans. Puis moi, ben un an. Même pas tout à fait un an. Et ça a cliqué. Puis on a commencé à se fréquenter. Mais il faut que je vous dise, là, t'es super gentil, là, mais il était plate. Plate. Tu sais, quelqu'un qui dit une phrase qu'il veut pas entendre, genre, tu trouves pas que t'en as assez pris, Linda? Hey, ça, je l'ai entendu tellement souvent, cette phrase-là. Mais j'ai quand même continué à le fréquenter jusqu'à un moment donné où ce qu'il m'a dit, je vais te demander de quitter. Attends une minute, là, il y a quelqu'un qui me dit ça à moi, là. Je vais te demander de quitter. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Mon ego, moi, il est plus grand que la salle ici, là. Bien, probablement plus grand que le building, là. Je ne l'ai vraiment pas pris. On s'est séparés, on s'était fréquenté comme 7 mois. On s'est séparés pendant 2 mois, puis il m'a rappelé. Il m'avait dit que ma meilleure amie, c'était la bouteille. Oh, mon Dieu! Donc, quand il m'a rappelé, on a recommencé à se fréquenter, puis moi, je feignais l'abstinence, c'est-à-dire je buvais quand il n'était pas là, comme s'il ne pouvait pas s'en rendre compte. Mais pendant un petit bout, ça a fonctionné. On a recommencé à se fréquenter de façon assidue. On a même habité ensemble. Faut dire que lui, il était très, très malade, hein, faut croire, hein, pour me demander ça. Et il m'a même demandé en mariage. J'ai accepté. Pas longtemps après le mariage, là, j'avais recommencé à boire à cachette, là. En cachette. Le genre, il y a des coupes de vin à moitié finies dans la vanité de la salle de bain, il y a des bouteilles dans le garde-robe des enfants, vraiment à la cachette. Il s'en rendait compte. À un moment donné, je suis partie, parce que moi, j'étais une femme responsable, là. J'étais une mère de 3 enfants, une professionnelle qui aimait juste ça s'amuser, là. L'alcool, c'était juste pour ça, là. Moi, j'avais pas de problème d'alcool. À tel point que j'étais allée à l'anniversaire d'une de mes amies, juste des filles. Moi, j'habite Longueuil. L'anniversaire, c'était à Laval. Puis après le souper, qui était à la maison chez elle, on a décidé de sortir. Puis on est des femmes responsables. On a pris un taxi. Pendant la soirée, à minuit, les serveurs enlevaient leur chemise. Pourquoi, je ne sais pas, là. Probablement qu'ils étaient cute, là. Ils enlevaient leur chemise. Puis moi, ça a l'air que je trouvais ça amusant de lancer de la cire, parce qu'il y avait des chandelles sur le bord, sur les serveurs. On m'a mis dehors. Là, j'ai 40 ans, là. 41 même. On m'a mis dehors. Pas de manteau. C'est le 23 janvier. J'ai un manteau de cuir sur le dos, que j'ai encore aujourd'hui sur le dos. J'ai pas de manteau. J'ai ma sacoche. J'ai pas de lighter. Je suis une fumeuse. C'est grave. L'heure est grave. J'ai pas de lighter. J'ai embarqué dans un taxi. Puis le chauffeur, c'était un total incompétent. Je lui disais de venir me reconduire chez mon amie Nathalie, puis il ne savait pas elle habitait où. Tu sais, quand on parle d'un chauffeur incompétent. Il m'a mis dehors du taxi. Je me suis retrouvée dans un genre de parc industriel à Laval, ou dans le coin de Laval, en petit manteau de cuir. Il fait probablement moins 35. Là. J'ambitionne peut-être, mais il faisait vraiment froid. J'ai réussi à rembarquer dans un taxi qui m'a arrêté dans un guichet parce qu'il ne faisait pas confiance au fait que j'étais pour le payer. J'ai réussi à lui donner mon adresse. Puis une fois rendu à mon adresse, je trouvais pas mes clés. Donc, puis il n'était pas question que je sonne pour réveiller mon mari, là. Il n'y en était vraiment pas question. J'ai marché jusqu'au coin de la rue, puis il y a quelqu'un qui m'a embarqué dans un genre d'Econoline, une vanne. J'ai embarqué avec un étranger. Femme responsable de 40 ans, professionnelle, avec 3 enfants en charge. Wow! Vraiment, là, c'était le... Puis pallier au fait que je ne pouvais pas rentrer à la maison, j'ai demandé à ce monsieur-là de venir me reconduire chez mes parents. Donc, tout à fait normal d'arriver vers 4-5 heures du matin chez tes parents très, très âgés pour leur dire que tu n'as pas tes clés. Je coupe court à l'histoire, là, c'est juste pour vous démontrer à quel point l'alcool m'a amené à être dans une totale déchéance, à faire des choses que j'aurais entendu quelqu'un raconter puis je l'aurais fait interner. Mais j'ai fait ça. J'ai embarqué dans l'école online de quelqu'un que je connaissais pas. Un homme, là, pas une petite madame tranquille, là, qui était super gentil, que je soupçonne aujourd'hui d'être un membre. Parce que je... Donc, ça, c'était un point de chute, puis il n'y en a pas juste une histoire comme ça, il y en a plusieurs, là, mais juste pour vous démontrer à quel point ça allait pas bien dans ma vie. J'ai eu droit à une intervention de ma famille, mon mari principalement, puis mes sœurs, mes enfants. Puis ça l'a fait ça l'a ouvert la vanne, dans le sens que pour la première fois de ma vie, sans alcool, je me sentais comme apaisée. Et mon beau-père m'a emmené faire mon premier meeting. Je m'en souviens même pas du meeting, là. C'était comme, j'ai comme un mur noir en avant de moi, là. Je me souviens même pas si c'était un homme ou une femme qui partageait. Mais j'ai pas bu pendant 3 semaines. Mon mari était tellement heureux, là. Ah! C'est comme s'il venait de gagner 28 millions de dollars. J'ai été abstinente pendant 3 semaines. Je suis allée faire des meetings, puis j'entendais qu'un alcoolique, ça ne pouvait pas prendre son premier verre. Fait que pour faire le test, après 3 semaines, je suis allée toute seule au restaurant. J'ai pris un verre de vin, seulement un. Je n'étais pas alcoolique, la preuve venait d'être faite. J'avais été capable de prendre un verre de vin. Fait que le lendemain midi, là, vers 8h30, je suis allée me chercher un litre de vin pour la semaine, qui a duré une heure et quart, gros max, et c'est reparti de plus belle. Là, je buvais encore plus à cachette que je pensais. Puis ça, si on parle du mois de novembre, puis au mois d'avril, ben là, moi, dans ma tête, je suis partie de la maison, mais c'est mon mari qui m'a mis dehors. Hein. Il est venu me reconduire chez ma soeur. Il était plus capable. Puis pendant une semaine, sans même y penser, je n'ai pas bu. J'étais trop en... J'allais dire un gros mot, mais j'étais trop en colère. Puis là, pour faire plaisir aux gens qui me demandaient d'aller faire une thérapie, je me suis booké une place à la maison Jean Lapointe pour leur faire plaisir puis pour qu'ils me sacquent patience. Puis le lundi matin, je suis rentrée à la maison Jean Lapointe avec mon mari. On était dans la salle d'attente. Puis il était assis à côté de moi puis s'est mis à pleurer. Puis là, mon réflexe, c'était « qu'est-ce qu'il a broyé? Il a ce qu'il veut, là? Je m'en vais en thérapie, là. » Tu sais. Puis, j'ai demandé « Pourquoi tu pleures? » Il m'a dit « Linda, je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je suis plus capable. » Ça a été... je venais de faire... Parce que moi, j'avais fait la première partie de la première étape, c'est-à-dire nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool. Regarde, je suis pas folle, là. Je voyais bien que je ne buvais pas comme les autres puis que c'était incontrôlable. Mais j'avais pas fait la deuxième partie qu'on admet qu'on a perdu la maîtrise de notre vie. Puis là... En une seule phrase, c'est rentré, mais vraiment profondément. Moi, je ne buvais pas sur les bancs de parc. Je n'avais pas perdu ma maison, je n'avais pas perdu mes enfants encore, je n'avais pas perdu mon mari encore, je n'avais pas perdu mon argent encore, mais je vivais à l'encontre de mes valeurs profondes qui sont l'amour, la famille, la confiance, le respect. Là, c'était fait. Ma première étape était faite au complet. J'ai rentré à la maison Jean Lapointe. Puis pendant les 3 semaines, j'ai écouté, puis j'ai mis en pratique tout ce qu'on me disait de faire. Puis ça m'a donné l'occasion de m'écouter, puis d'essayer de reconnecter avec ce qui était le plus important pour moi.
Avez-vous perdu la maîtrise de votre vie? Comment on perd le contrôle? Hein? Là, c'est d'admettre ça qui est très difficile pour un alcoolique. Puis Linda nous l'a bien exprimé, elle nous l'a bien raconté. Puis là, ben, on entend qu'elle a commencé ses premiers jours en thérapie là, à la maison Jean Lapointe. Bien hâte d'entendre la suite de son histoire après cette courte pause.
Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio AA. Ce site est un jour à la fois, trait d'union, émission.org. Le site est accessible aussi par le site internet de la région 87, aa87.org. Par le biais d'internet, tu as accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour 2020 et 2021, ainsi qu'aux archives de partage radio. Si tu veux venir partager ton histoire personnelle à l'émission, tu n'as qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur ce site. Notre studio est situé au Bureau des services généraux de la région 87 à Montréal. On peut aussi y trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Nous allons retrouver Linda. Linda, elle vient d'arriver à sa thérapie, donc en thérapie à la maison Jean Lapointe. La première étape, elle nous dit qu'elle vient de réaliser quelque chose, donc je vais vous lire la première étape. « Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. » C'est la première étape parmi les 12 étapes des Alcooliques anonymes. Alors maintenant, retrouvons Linda. À toi, Linda.
Donc, comme je le disais, j'ai fait ma thérapie, j'en ai profité pleinement. C'est un 3 semaines qui a été vraiment important dans ma vie. En fait, qui m'a redonné la vie. Pendant que moi, j'étais en thérapie, mon mari qui est impliqué, quand il se donne à quelque chose, il se donne à 100%. Lui a commencé à faire du Al-Anon suite au programme d'aide à la famille, le PAF de la maison Jean Lapointe. Et c'est vraiment, je peux vous dire aujourd'hui que c'est vraiment aidant d'avoir un conjoint qui fait du Al-Anon. Mais je peux aussi vous dire que j'ai eu un choc quand je suis sortie de thérapie. Parce que j'ai profité de ma thérapie à 100%, mais mon égo, il n'a pas dégonflé à 100%. Fait que moi, quand je suis sortie, on sort sur l'heure du dîner, il est venu me chercher. Il m'a ramené à la maison. Il n'y avait pas de ballon. Il n'y avait pas de gang qui m'attendait. Il n'y avait pas de tambour ni trompette. Il m'a débarqué, puis il est parti travailler. Je me suis sentie comme seule, vraiment seule. Puis je m'attendais à être célébrée. Mais il n'y avait aucune raison de me célébrer. Là, je le comprends aujourd'hui, mais les premières semaines ont été difficiles parce que lui, il apprenait l'amour avec le détachement. Puis moi, je me sentais vraiment seule là-dedans. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il a fait tout ce qu'ils ont dit de faire autant que moi, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Puis c'est parfait comme ça. Ma belle aventure avec Alcoolique Anonyme a commencé. Je me suis impliquée vraiment à fond dans les meetings que je faisais. Je fréquentais 3 meetings par semaine minimum, plus le maintien que je faisais à la maison Jean Lapointe. Puis j'ai arrêté un comportement que j'avais avant, c'est-à-dire le jugement. Moi, les salles de meeting, c'était des sous-sols d'église laids, peinturés en jaune malade ou vert malade. Les écritures des slogans, c'était passé date. Il n'y avait pas beaucoup de personnes avec des dents dans les salles, selon selon ce que je voyais avec les yeux que j'avais à l'époque. Je me sentais quand même toujours un petit peu au-dessus de tout le monde. Puis, pas longtemps avant de rentrer en thérapie, c'est-à-dire quelques jours avant de rentrer en thérapie, mon mari voulait que j'aille faire il voulait m'accompagner dans un meeting et qu'il voulait donc. Mais puis là, je lui avais dit que c'était pas pour moi les meetings, que je n'étais pas capable de m'identifier à ces personnes-là. Et là, il m'a dit, ben, appelle à l'aide téléphonique, ils vont sûrement t'aiguiller vers un meeting qui peut te correspondre. Puis j'avais appelé, puis j'avais dit, est-ce qu'il y a des meetings pour professionnels? Puis le monsieur, il est parti à rire. Puis il m'a dit, ah, ça, les meetings, ma petite madame, faut magasiner. OK. Mais aujourd'hui, là, je me dis, oh mon Dieu, il devait-tu rire dans sa barbe, le monsieur, des meetings pour professionnels? Là, maintenant, là, aujourd'hui, là, je me sens à l'aise dans n'importe quelle salle avec l'audience qu'il y a là, beaucoup plus qu'avec les professionnels, comme j'appelais, parce que je sais que toutes ces personnes-là dans la salle, ils ont la même maladie que moi. Puis quand je parle, ils comprennent exactement ce que je veux dire. Puis quand ils parlent, moi, je comprends exactement ce qu'ils veulent dire. Donc, on n'est plus dans le paraître, mais on est dans l'être. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. Puis je me trouve... j'étais tellement snob, là. C'était... Écoute... C'était même pas drôle, là. Mais Dieu merci, ça disparaît avec le temps. Je me souviens d'un meeting que j'avais fait... dans l'est de la ville de Montréal, puis je regardais les gens, puis j'avais quasiment peur. Mais aujourd'hui, ces gens-là, c'est mes amis, là. C'est des gens avec qui je peux parler longuement, profondément. Ma perspective sur les gens a changé. C'est un 300... Non, pas un 360, ça voudrait dire que je reviendrai à la même place, mais un 180. Donc, c'est ça. Mon aventure de rétablissement a commencé... avec la belle gang des AA. Et ça n'a pas été long que je me suis impliquée RSG, trésorière, animatrice. J'ai accepté de partager. Moi, qui est une perfectionniste, la première fois que j'ai partagé, je me disais, je ne dormirai pas de la nuit. Je me souviens encore du monsieur qui me l'avait demandé. Puis contrairement à mes habitudes, j'ai même fait un somme dans l'après-midi avant d'aller partager. Puis j'ai pas partagé d'avance. Je suis arrivée là, j'ai partagé, j'étais pas nerveuse, j'étais à ma place. J'avais pas peur de dire des niaiseries parce que je savais que j'étais entourée de gens comme moi. Puis si je disais des niaiseries ou que je les avertissais d'avance que ce que j'étais pour dire, c'était pour être décousu, pas peut-être, ça va l'être, parce que c'est décousu, mais... aucune nervosité, aucun stress, parce que je suis avec mes semblables, je suis avec des gens qui me comprennent. Donc, j'ai continué ma belle aventure. J'ai même été faire un certificat en toxicomanie à l'université pas pour travailler là-dedans. Faut dire que j'étais à la retraite, là, mais pour m'informer de notre maladie. Puis j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup au point de vue scientifique, mais ça me conforte dans l'idée que les AA, c'est à peu près la seule affaire qu'on a des preuves de visu que ça fonctionne. Donc, j'ai fait du bénévolat, je me suis impliquée, je me suis pris une marraine, j'ai appris à piler sur mon orgueil puis à piler quand ça allait pas. Ça, c'était vraiment une grosse partie de mon problème, là. Parce que je voulais pas que les gens sachent quand j'allais pas bien. Je parlais pas de mes sentiments, ça allait toujours bien, mais dans le rétablissement, j'ai appris à dire les vraies choses. Puis quand ça va pas bien, je le dis. Ça m'aide beaucoup. J'ai commencé aussi à marrainer. Ça, c'était difficile pour moi de pas prendre le fardeau de la douleur des autres sur mes épaules. Mais ça s'est fait naturellement. Je le fais avec détachement, un peu comme dans l'annon. Je les aime avec détachement. Leur rétablissement ne m'appartient pas, je peux les accompagner. Autant que ma marraine, elle peut pas faire mon chemin pour moi, mais elle peut m'aider. Ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir tout ce soutien-là. Encore aujourd'hui, là, je vais prendre mon 10 ans en début d'avril. Et je suis toujours aussi reconnaissante puis toujours aussi active dans les AA parce que ça me sauve la vie. Ça me sauve vraiment la vie. Je vous ai parlé au tout début que moi, ma peur, ma terreur, c'est même pas de la peur, c'est la terreur, c'est de perdre mes parents. Puis je me disais, oh mon Dieu, là, je suis abstinente, mais tu sais, je suis pas sûre que je serais capable de passer à travers la perte de ma mère ou de mon père. Et en 2018, en septembre 2018, Le 7 septembre 2018, ma mère est décédée. Et le 8 septembre 2018, mon père est décédé. Ils sont décédés à 23 heures de différence. Et malgré ça, j'ai passé à travers ça de façon hyper sereine parce que j'étais capable de voir le beau côté de la chose. Ils sont partis après 60 ans de mariage, ensemble, dans la même chambre d'hôpital, main dans la main. Ça m'a aidé vraiment beaucoup à passer à travers ça. Je suis pas sûre que dans le temps de mon actif, j'aurais été capable de passer à travers ça. En fait, je suis certaine que j'aurais pas été capable de passer à travers ça de façon sereine. Ça, c'est certain. Mais j'étais capable de voir qu'ils sont partis ensemble comme ils auraient voulu. Là. C'était des grands amoureux. Mes parents, ils n'auraient pas survécu l'un à l'autre. Mais en fait, ils ont pas survécu. Là. Ils sont partis ensemble. Puis j'ai pu être là aussi pour ceux de ma famille qui le prenaient de façon moins sereine. Style ma filleule, ma nièce qui s'est accrochée au dentier de mes parents pendant 2 semaines en les lavant tous les matins. J'ai été capable de l'accueillir là-dedans. Non, honnêtement, là, sans le mouvement, j'aurais pas passé à travers ça. C'était une réserve que je me gardais, puis maintenant je suis convaincue qu'il n'y a rien qui peut m'arriver. Si je continue dans le chemin AA, qui est plus fort que mon abstinence. Puis mes 3 enfants qui sont adultes maintenant trouvent ça des fois élevé que je fasse encore du meeting après 10 ans, mais je leur dis que mon abstinence est plus importante même que eux. Donc, mon abstinence passe en premier.
Chers auditeurs, je suis en ce moment très touchée là, par cette histoire de décès des parents de Linda. Main dans la main, dans l'amour, j'avoue, après 60 ans de mariage, mais encore plus touchée du fait que Linda a été capable de passer au travers une épreuve très profonde au niveau émotionnel, puis difficile, vous allez le comprendre, c'est le deuil de ses parents. Puis tout ça sans boire d'alcool. Tout ça parce qu'elle est capable de vivre avec sérénité grâce au mouvement des Alcooliques Anonymes. Alors, nous allons aller à une pause publicitaire dès maintenant pour retrouver Linda avec la fin de son partage.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
De retour à l'émission Un jour à la fois. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement AA, tu consultes le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Par exemple, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Tu cherches une réunion? Eh bien, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Et même maintenant, les réunions en ligne sont ajoutées puisqu'il y a plusieurs réunions sur Zoom en temps de pandémie. Nous retrouvons Linda, notre invitée aujourd'hui. Je suis tellement heureuse de l'entendre nous parler de son histoire et son partage. Elle nous a parlé de son aventure de rétablissement et aussi comment elle passe au travers les épreuves sans consommer d'alcool. Puis donc, pour terminer son histoire, on va tout de suite aller l'entendre. Alors, à toi, Linda.
Donc, comme je disais, souvent mes garçons, pas souvent, là, mais ça va arriver qu'ils vont dire « Ah, tu peux pas venir au souper parce que tu as un meeting, il me semble, ça fait 10 ans, pourquoi t'en fais encore? » Mais je leur rappelle souvent que si j'ai pas mon abstinence, je peux être rien pour eux autres. Pendant mon rétablissement, moi, j'ai eu le grand cadeau là, de devenir grand-maman. C'est un rôle que j'adore. Beaucoup moins épuisant que mère, mais encore mieux. C'est encore mieux de profiter des petits-enfants. Puis honnêtement, là, il n'y a pas quelqu'un de sain d'esprit qui m'aurait confié la garde d'un enfant dans le temps de mon actif. Là. Tu sais, c'est... J'aurais appelé probablement moi-même la DPJ. Là. Mais aujourd'hui, j'ai la joie de pouvoir profiter de chaque petit instant avec ces belles merveilles-là, un petit garçon puis une petite fille. C'est la première fois. Moi, j'ai eu trois garçons, là, puis j'ai une petite fille, là, la dernière. Là. Elle est adorable. Puis mon petit-fils, ben écoute, là, c'est mon bébé. C'est toutes des choses que aujourd'hui je peux profiter à 100%. Puis les hommes ont appris aussi à vivre le moment présent, à faire des choses pour moi. Moi, j'ai un esprit très cartésien. Comme je disais tantôt, je suis comptable de formation, mais dans mon abstinence, j'ai appris à tricoter, à faire de la couture. Ce qui était, quelqu'un m'aurait dit ça, il y a 20 ans, j'aurais ri comme une malade, là. Je n'étais même pas capable d'enfiler une machine à coudre, là. C'est le seul examen que j'ai coulé. Mon secondaire, c'est économie familiale, l'étape couture, parce que j'étais pas capable d'enfiler la machine. Puis aujourd'hui, ben je fais ça pour m'amuser, parce que ben, je m'amuse, je suis à la retraite. Puis je le mérite, hein? Donc, je peux profiter des voyages. On fait... Écoute, je pense que dans les 10 dernières années, on a fait minimum 40 voyages. Avant, pour moi, un voyage, c'était d'aller quelque part boire. N'importe où, mais boire. Fait qu'il n'y avait aucun voyage qui était admissible selon mes standards s'il n'y avait pas d'alcool impliqué. Puis aujourd'hui, je peux vous dire là, que la vie est bien plus belle sans alcool. Parce que moi, c'était ma grande peur. Là. La vie va être plate. Il n'y a pas rien qui va être intéressant. Des soupers avec des amis sans alcool, tu sais, des soupers sèches, arc, c'est plate, ça. Des voyages sans alcool, ben n'importe quoi sans alcool était considéré pour moi, par moi, complètement inutile et inintéressant. Puis aujourd'hui, je peux vous confirmer que c'est totalement l'inverse. Quand je voyage, je visite. Je vois plein de belles affaires. J'ai vu des places extraordinaires. Puis même sans voyager... À la maison, là, on est en pandémie, là. Là, on est à la maison, là. Mais je me suis trouvé des centres d'intérêt nouveaux. Puis quand mon moral commence à diminuer, ben mon réflexe, c'est de m'impliquer plus dans les AA. Puis ça fonctionne, parce que moi, ça va super bien. Là, dans le moment, je suis RDR d'un district. On s'occupe d'une journée de gratitude qui s'en vient. Je suis impliquée au niveau du CMP. Je suis impliquée... Le CMP, c'est le comité de collaboration avec les milieux professionnels. Professionnels, c'est pas drôle. des gens à mon niveau. Non, avec... on va aussi faire une journée... on va accueillir la journée des centres de détention en septembre. Donc, plein de projets. Puis moi, j'aime ça, les projets. Fait que, puis là, maintenant, mes journées ont bien plus que 2 heures de temps utile. Là. Maintenant que je bois plus, les journées ont 24 heures. Fait que j'ai plein de temps pour m'occuper de plein d'affaires, découvrir plein d'affaires, aider plein de monde, m'aider moi-même, prendre soin de moi, prendre soin de ma famille. En fait, c'est pas compliqué. Là. La vie est pas juste un petit peu mieux ou tolérable, elle est merveilleuse comme elle est pour moi dans le moment. C'est pas parce qu'on arrive dans les AA que la vie devient hyper facile puis qu'il n'y a pas d'embûches. Il y a des embûches dans toutes les vies. Hein. Mais moi, les 12 étapes me servent, pas juste les 12 étapes, les 12 traditions, ça me sert dans ma vie de tous les jours, même en dehors de mon abstinence. On peut appliquer ça partout. C'est pas pour rien qu'il y a... Je pense qu'il y a plus de 400 associations qui sont basées sur les 12 étapes. En quelque part, ça doit être parce que ça marche. Hein? Puis quand on regarde ça, là, les premiers temps, je lisais ça, puis moi qui me trouvais supérieurement intelligente, j'avais de la misère à les intégrer. Mais c'est sûr qu'en débrouillement, c'était plus facile. Là. Mais c'est tellement simple. C'est vraiment simple. Puis j'ai retardé, moi, dans mon processus, la quatrième étape qui dit qu'on fait un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Ça, je l'ai retardé longtemps. Puis la cinquième qui va avec, là, qu'on l'avoue à nous-mêmes, à Dieu et à un autre être humain. notre inventaire, je parle. J'ai fait ça, moi. C'était réservé d'avance, un week-end intensif, là, 4 jours, je crois. Ça a donné que c'était 2 semaines après le décès de mes parents. Puis, ça a l'air que c'était le bon moment, parce que ça a été un processus qui était pas facile, mais qui s'est fait, que ça a coulé. Ça s'est super bien fait. J'ai pas eu de difficultés à le faire. J'ai retardé, mais peut-être que selon ma personnalité, c'était une bonne chose parce que je me suis rendu compte en faisant cette étape-là que beaucoup de choses avaient déjà été faites. Peut-être parce que j'ai attendu. En tout cas, il y a pas. C'est vraiment une façon de faire qui est personnelle, là. Il y en a qui ont besoin de faire ça au tout début de leur processus, de leur établissement. Mais moi, après 8 ans, 7 ans et demi, 8 ans, ça a l'air que c'était parfait pour moi. Moi qui me trouvais bien vite, faut croire que j'étais pas vite. Fait que il fallait que je le fasse, par exemple. C'était vraiment important de le faire. Puis dans le quotidien, il n'y a pas une journée où j'ai pas une interaction avec le mouvement. Que ce soit dans mon implication, que ce soit même si je fais pas de meeting, il n'y a pas une journée où je rentre pas en communication avec un ou une membre. Puis à la base, les AA, c'est ça. C'est 2 alcooliques qui se rencontrent. Puis maintenant, aujourd'hui, se rencontrer, ça veut peut-être dire virtuel, mais 2 alcooliques qui partagent ensemble. Moi, j'ai appris, comme je l'ai dit tantôt, à appeler rapidement quand ça va pas, parce que de l'obsession mentale, c'est dangereux pour moi. J'ai appris aussi que le ressentiment, pour moi, j'avais entendu une définition par un vieux membre, puis ça m'a tellement parlé. Le ressentiment, c'est dangereux pour moi, puis ça n'a aucune utilité. Le ressentiment, je le vois comme prendre du poison dans l'espoir que quelqu'un d'autre en meure. L'autre personne, elle ne sait pas, puis elle ne mourra pas. C'est moi qui vais mourir à petit feu si je fais du ressentiment. Donc, ça, je me tiens loin de ça. Puis quand ça commence, là, tu sais, c'est un peu comme une allergie que ça commence à picoter, là. Quand je commence à faire du ressentiment, ben j'ai maintenant le réflexe de téléphoner à ma marraine ou à une autre membre ou à un autre membre pour en parler. Puis c'est tellement plus dédramatisant d'en parler. Juste en parlant, ça diminue de minimum 75%. Puis il me reste juste un petit 25% à faire de mon bord. Puis normalement, habituellement, ça disparaît vite. Fait que pour moi, ça, je sais que c'est dangereux. On dit aussi que la fatigue, c'est dangereux. Quand on est fatigué, épuisé, quand on est Là, je vais parler un peu de la pandémie. J'ai entendu beaucoup que c'est dangereux pour les rechutes. Puis je suis tellement fière de faire partie d'un mouvement qui bouge, qui est vivant, qui s'est viré de bord sur un 10 ans. Maintenant, on a des meetings virtuels. Puis moi, là, je suis une adepte des meetings en vis-à-vis, là. Mais le fait qu'on puisse se réunir quand même, avec souvent la même gang ou avec des nouvelles gangs, et on fait preuve d'innovation, là. On est vraiment hot, là. Tu sais, moi qui aime ça être hot, là, je fais partie d'une gang qui est hot, donc ça m'aide. C'est vraiment admirable de voir comment que notre établissement est tellement important qu'on s'est doté de façons de faire pour pouvoir se réunir de façon virtuelle quand de façon en vis-à-vis, c'est impossible. Moi, je suis, j'allais dire, flabbergastée de voir comment qu'on est hot. Puis ça, souvent, ça prend juste un membre hein, qui est hot pour pouvoir entraîner toute notre gang dans quelque chose qui est merveilleux. Donc, pour moi, le mouvement des alcooliques, ça l'a sauvé ma vie. Merci.
Merci, Linda, pour ton partage. Moi aussi, je trouve que les Alcooliques anonymes, c'est une super fraternité des gens qui se donnent à fond puis qui se sont adaptés à la pandémie. Leur établissement, c'est tellement important, puis ils se sont justement virés de bord puis donné une accessibilité à tout alcoolique pour se rétablir de toutes les manières possibles. Merci beaucoup pour ton partage qui a été super honnête, transparent, coloré, drôle par moments, et puis ton rétablissement, super beau rétablissement. Merci d'avoir été là. Puis je tiens donc encore à te remercier. Je remercie tous les participants de cette émission, nos auditeurs, l'équipe, dont Richard à la console, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Isabelle qui vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt!